666, il est 14h.
Voilà, c'est un petit peu brutal. Il est 14h, on rentre de plein pied dans cette deuxième heure de Sweet Home Chicago. Je suis au téléphone avec Napoléon Washington pour cette interview. On va écouter d'autres extraits tout à l'heure de cet album Mud and Grace. Mais je voudrais avec toi également évoquer le fait que Napoléon Washington, en passe d'être reconnu, il y a un garçon qu'on connaît bien dans l'émission et puis qui est fort connu du monde du blues en général, bien sûr. C'est le boss d'Alligator, Brucey Glover, qui a dit de toi il y a quelques années, c'est de la très bonne musique qui démontre une grande compréhension pour la tradition du Delta Blues et un profond attachement à un son authentique. Ce type joue et chante aussi bien que de nombreux Américains qui pratiquent ce style, et mieux que beaucoup. Alors on sait que Brucey Glover travaille pratiquement exclusivement avec des Américains, je crois qu'il doit y avoir une ou deux exceptions. Est-ce que tu peux nous décrire déjà ton sentiment à l'époque, à la découverte de cet éloge signé Brucey Glover?
J'étais, j'en revenais pas évidemment. Quoi. J'étais énormément honoré parce que c'est quelqu'un qui est aussi assez sévère. Il faut aussi dire que sur les projets précédents, il avait été extrêmement sévère sur le Crawling King Snake qui était mon band d'avant. Il avait pas grand chose de bon à dire. Donc ça rajoutait autant de valeur à ce compliment qu'il
D'accord. faisait.
Et puis c'est le salaire, quoi. C'est vraiment on travaille pour. Ça fait vraiment du bien.
Hein. Et donc tu avais pris l'habitude de lui envoyer tes productions.
Oui. Ouais. Mais comme ça, à titre consultatif, parce que effectivement, il n'engage pas de production non américaine.
Est-ce que tu as utilisé comme ça d'autres personnes pour te servir un petit peu de baromètre pour te donner leur opinion, leur avis, enfin des gens du milieu, on va dire.
Oui, ouais. Et aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du milieu. C'est-à-dire que moi, je pense que l'avis de tout le monde... Moi, je fais de la musique pour les gens, vraiment, et pour tout le monde. Oui. Donc, il n'y a pas que les avis autorisés, il n'y a pas que ceux qui ont des connaissances en la matière. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que ma concierge en pense aussi.
D'accord.
Et comment c'est préhensible pour elle.
Ah oui, ça, c'est tout à fait à ton honneur. Je crois qu'il y a peut-être d'autres artistes qui le pensent, mais assez peu qui le disent. Alors, tu disais, c'est vrai, Brucey Glover n'a aucun artiste non-américain dans son catalogue. Est-ce que tu pensais quand même, après ces quelques mots, intégrer son écurie? Est-ce que c'était un souhait pour toi déjà?
Non, pas du tout. Non, non. Non. J'ai jamais eu aucune illusion sur le. Non. C'était. J'ai pris ça pour ce que c'était. Ça m'a fait très plaisir. Mais j'imaginais pas du tout intégrer. Je me permettrais pas d'imaginer des choses comme ça. Non.
D'accord.
C'est pas partie du fond.
Ah, c'est pas possible. Enfin, moi, à l'impossible nul n'est tenu. Mais enfin bon, impossible. Impossible n'est pas français, mais tu suis, je ne sais pas.
Parfois, oui.
Alors justement, par rapport à la distribution de tes albums, et avant de parler du nouveau, comment est-ce que tu t'y prenais pour faire connaître ton art aux futurs fans?
Pour être tout à fait honnête, je m'y prenais pas du tout.
Ah oui, c'est-à-dire que tu laissais les gens venir à toi ou...
Alors d'une part, oui, parce que je pense que fabriquer un intérêt là où il n'y en a pas, ça aboutit sur un résultat artificiel, donc c'est pas forcément très intéressant. Mm-hmm. Et d'autre part, j'ai vraiment des qualités de représentant de commerce qui sont en dessous du zéro absolu.
Ah non, c'est pas vrai ça.
Je déteste faire ça.
Alors là, je suis pas d'accord, mais bon.
peut-être que quelque chose m'échappe, mais en tout cas, pour le moins, j'ai une horreur consommée de chercher du prosélytisme et de chercher à convaincre. Moi, je fabrique simplement, je suis juste un petit bonhomme qui fabrique de la musique et j'ai bien de la peine à aller au-delà de ce rôle-là.
Voilà, on en parlera
tout à
l'heure.
Je sais que c'est nécessaire et qu'il faut se pousser un petit peu.
Bien sûr, aussi, oui.
Mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de fabriquer, c'est pas de vendre.
Donc ça veut dire que pour vendre des disques, en fait, c'était surtout la scène à la fin des concerts.
Non, Dieu merci, j'ai eu des bonnes distributions.
Voilà, tu as expérimenté aussi là.
En Suisse, par des vraies maisons de distribution qui sont occupées de ça. Donc j'avais le plaisir d'être dans les Fnac sans avoir moi à contacter qui que ce soit.
D'accord.
Donc ça c'est vraiment, heureusement que c'était comme ça.
Alors par rapport à cet album qui sort là, qui s'appelle Mud and Grace, dont on parle beaucoup sur internet et puis parmi nos petits camarades du collectif des Radio Blues, d'abord pourquoi ce titre Mud and Grace?
C'est mon plaisir de chercher à fabriquer une troisième chose à partir de deux premières. C'est-à-dire que vous avez Mud, la boue, Grace, la grâce, qui sont deux choses très claires indépendamment, et lorsqu'on les met ensemble, on en obtient une troisième par contraste. Et c'est un peu le principe, si vous prenez le portrait de quelqu'un, son visage, on va avoir quelque chose de plus important, de plus intéressant, de plus fort, de plus dramatique si on a de l'ombre et de la lumière dans ce visage, que s'il est éclairé au flash dans un photomaton en pleine gueule comme ça. Ça va être beaucoup moins vivant et beaucoup moins intéressant que si on se sert du contraste pour dessiner les formes. Et Mud and Grace, c'est une association de choses qui, à mon avis, dessine une forme qui m'intéresse.
Très bien, ouais, ça c'est une magnifique réponse. J'imaginais pas tout ça en fait. Par rapport à la conception du site web, parce qu'il faut bien le dire, cet album a été pressé à très très peu d'exemplaires, juste pour envoyer à quelques médias, mais en fait la totalité des ventes, on va dire, elles vont se réaliser sur le site web. Il a été entièrement refondu hein, pour la sortie de cet album. On peut feuilleter l'album en entier, les titres, les paroles. J'insiste là-dessus, d'ailleurs c'est pas un gadget, hein, c'est une idée véritablement révolutionnaire. C'est peut-être même une première dans l'histoire du disque, hein, je sais pas, je manque peut-être de référence à ce niveau-là. L'album donc n'existe pas matériellement, mais il est proposé à la vente sur le net, enfin, à la vente ou pas d'ailleurs, hein, parce que tu laisses aussi aux gens, la liberté de choisir si jamais ils habitent dans une cabane sans électricité. Tu me diras comment ils peuvent brancher leur ordinateur. C'est là-dessus où je voulais en venir, tu sais, par rapport à ton défaut de talent dans le marketing. Moi, je trouve au contraire c'est très très bien ficelé, parce que tu amènes ça de façon simple, mais en même temps qui se lit tout de suite, et voilà, on prend pas ça comme quelque chose de mercantile, tu vois ce que je veux dire.
Oui, j'ai d'ailleurs pas de...
Ben, je trouve ça très bien fait, en tout cas.
...du commerce, parce que je fais aussi de la musique pour la vendre, et je vois rien de déshonorant à cela, mais effectivement, là, il y avait la volonté de faire une expérience, vraiment, c'est une expérience, elle n'a pas valeur d'absolu, ou elle n'est pas forcément appelée à se reconduire sous cette forme-là, mais là, il y avait la volonté de chercher quelque chose vis-à-vis de la situation dans laquelle je suis. Je fais de la musique de niche, je suis un petit indépendant, j'ai pas une notoriété très importante, et quelle est la formule qui va me permettre d'amener cette musique et d'ouvrir cette fenêtre sur mon petit monde pour les gens à qui j'ai envie de l'offrir, qui soit plus efficace que simplement d'imaginer remplir des camions avec des cartons disques qui vont aller Dieu sait où. Je veux dire, ça c'est un peu illusoire dans mon cas. Alors il y avait une réflexion sur chercher autre chose et de mettre le truc. Effectivement, il n'a pas été pressé du tout à l'intention du public. Il y a un pressage pour les radios et pour la presse, parce qu'on ne peut pas leur dire d'aller sur le net pomper tout ça. Mais au niveau du public, ça se passe vraiment exclusivement sur le net, parce que aussi, formellement, la manière dont ce projet est conçu, qui implique beaucoup de visuels, qui a ce petit livret complètement magique dont les pages s'animent, le contenu des pages bouge, et ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire ailleurs que sur le net.
Exactement.
Et du coup, ça lui donne une légitimité. Il a le droit d'être là parce qu'il est pensé de cette manière-là.
Voilà, pour les gens qui ne sont pas encore allés voir, hein, chaque page s'anime, effectivement. Sur la partie gauche, vous avez un petit lecteur à chaque fois, avec pause, lecture, avance rapide, etc. Et puis, quelques paroles, quelques mots d'explication sur chaque titre. Et puis, à droite, alors, chose magique, quand j'ai découvert ça la première fois, j'ai dit, mais... C'est génial, quoi. Toutes les paroles qui arrivent à s'afficher au fur et à mesure que toi tu les chantes, avec une espèce de mise en scène, mise en lumière, un jeu sur les polices de caractère, sur le sens, sur l'éclair obscur. Enfin, c'est quelque chose de... C'est de l'art, véritablement, c'est de l'art. Ça va au-delà de ce qu'on a vu jusque-là, en tout cas.
En tout cas, j'ai pas vu de... Je ne sais pas si j'ai inventé quelque chose et finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais effectivement, j'ai pas vu de démarche qui soit exactement similaire.
Ce sera sans doute copié, à vrai dire.
Pardon ?
J'imagine que ce sera sans doute copié, quoi.
Peut-être, oui. ça serait un honneur, je le prendrais pas mal, mais je ne sais pas si ça sera copié. Maintenant, moi je vois pas tout à fait ça comme de l'artisanat, peut-être pas comme de l'art. Quand
on va faire une chose, Napoléon Washington, on va écouter un extrait de cet album, puis on se reprend quelques minutes, et puis on a encore, j'ai encore quelques questions à te soumettre. Ça va comme ça ?
C'est parfait, merci.
Très bien. On va écouter It'll Be Poison, pardon. Napoléon Washington dans Sweet Home Chicago.
A deck. It'll be poison, poison, they coming with the check. They buzz in your buzzer, brother, they are cold and collect. It'll be poison. It'll be poison. It'll be poison. half names, it'll be poison, poison. You shiver in the trains. The government's advising you to set your house in flames. It'll be poison.
Il est 14h12 à l'écoute du 666. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette interview en direct live avec Napoléon Washington, qui est toujours là.
Oui, j'ai toujours là.
Voilà, on vient d'entendre It'll Be Poison, donc un morceau où l'emploi des percussions se fait de façon pleine et entière hein, dans ce titre-là. Donc le percussionniste n'est autre que Raphaël Pedroli, également batteur. On l'évoquait tout à l'heure puisque ça fait un moment que vous suivez. Comment est-ce que ce mix avec ton répertoire qui s'accommode parfois mieux d'une action en solo, j'allais dire, peut s'accommoder de ces orchestrations un petit peu plus turbulente.
Ben, je crois que en fait la question vue de l'intérieur se pose un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi mon travail principal et ce qui m'intéresse c'est mon travail de studio et c'est ce qui se fabrique dans un album. Et puis après la scène c'est l'adaptation de ça avec les moyens qui sont disponibles, et effectivement c'est souvent plutôt de la tournée en solo, ce qui m'intéresse de moins en moins d'ailleurs, et c'est plutôt la scène qui serait le parent pauvre de mon travail en général que le contraire.
D'accord, et donc là ça nous amène à citer les musiciens qui collaborent à cet album. Je vais les citer tous si tu veux bien. Je viens de parler de Raphaël Pedroli, Simon Gerbert à la contrebasse, quelqu'un avec qui tu travailles depuis longtemps, Jean-François Lehmann à la clarinette, Tomcat Blake au chœur, qui lui a sa propre carrière, et puis Fabian Schild, je ne suis pas sûr du tout de la prononciation hein, qui lui assure le mixage et le mastering. Je l'ai associé aux musiciens parce que les différents protagonistes de l'album finalement ne font qu'un hein, quand il y a on imagine une osmose comme ça en studio avec ce type d'album. Comment est-ce que ça s'est passé, cette collaboration avec les différents musiciens, les différents protagonistes de l'album?
Bon, c'est vraiment ça, effectivement. Hein. C'est très juste de mettre l'ingénieur du son qui a fait le mastering là-dedans, parce qu'effectivement, c'est bien un rôle tout aussi important que tous les instrumentistes qui interviennent. Concrètement, ça s'est passé, c'est assez simple, ça a pris 4 ans à se faire, parce que j'ai commencé par construire un studio, mais alors vraiment du bâtiment, tu vois. On a vraiment construit un studio. Et puis après, j'ai travaillé là-dedans, j'ai fait toutes les maquettes, et puis après, j'ai enregistré un peu le monde sur les maquettes, comme ça. Alors il y a des gens comme Pedroli qui est venu faire les batteries, il y a Simon qui est venu faire les contrebasses, il y a des gens qui sont des gens qui interviennent peut-être un petit peu plus personnellement dans le truc, et puis après il y a des gens, par exemple Jean-François Lehmann qui fait les clarinettes basses, lui c'est quelqu'un qui est venu juste un petit bout de nuit comme ça, enregistrer ses pistes de clarinette, qui est un musicien classique, qui était vraiment au service d'eux et qui vient faire de la... Donc il y avait des gens de session, et puis il y avait des gens qui sont plutôt des gens de avec lesquels il y a un rapport plus personnel, et c'était très intéressant de mettre tout ça ensemble.
D'accord.
Et quant à Tomcat, ça s'est un peu décidé à la dernière, où sur les maquettes, c'était moi qui faisais tous les chœurs, et ça fonctionnait pas trop mal, sauf sur deux titres sur lesquels on avait besoin de chœurs avec un autre grain.
Ouais.
Et là, bah, je l'ai appelé un peu invité, je lui ai demandé est-ce que tu peux venir vite au studio faire des chœurs sur 2-3 pistes. Et puis bien sûr, il est venu, c'est un copain depuis longtemps, c'est un petit peu magnifique. Donc ça s'est passé très différemment selon les individus.
Ouais, j'imagine. Ouais, y a des gens qui sont restés très peu de temps et d'autres qui se sont impliqués à 100% dans le projet. Voilà. Tu parlais de ta voix en tant que choriste et ta voix en tant que lead vocals. C'est un petit peu durci. Enfin, c'est mon oreille qui me le fait dire. Elle a pris peut-être un peu de tanin, alors volontairement ou non. Est-ce que c'est la route ou les influences d'autres musiciens ou le temps qui passe tout simplement ou des substances? Je sais pas.
Je je pense que c'est tout ça.
Ouais.
Moi je suis content d'entendre ce commentaire dans le sens où s'il y a quelque chose qui m'intéresse pas, c'est bien d'avoir un truc figé qui n'évolue pas. Donc que les choses évoluent, après elles évoluent dans le sens où la vie les conduit,
ouais.
Mais que la voie se modifie avec le temps, je pense que c'est une bonne chose. On apprend le métier, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qu'on apprend à mieux maîtriser. Et je pense qu'au contraire, si les choses évoluent comme je voudrais qu'elles évoluent, je m'approche de plus en plus de ma voix à moi et de moins en moins à une voix de fonction. Donc j'espère effectivement que ça évolue et que ça continue d'évoluer.
Quand tu dis je m'approche de ma voix, tu mets un X ou un E à la fin?
Les deux, j'espère.
D'accord. Alors, dans cet album Modern Grace, donc, tu signes 12 titres et tu reprends, il y a 13 titres dans l'album, il y a une reprise de Zachary Richard qui s'appelle Big River. J'allais dire, pourquoi cette reprise? Pourquoi d'abord une seule reprise? Et puis pourquoi ce titre qui est sorti en 88, il y a déjà fort longtemps, dans un album qui s'appelait Zax Bonton, c'était un espèce de comeback à la Nouvelle-Orléans dans sa propre discographie à Zachary Richard. Pourquoi ce choix finalement?
Moi, j'avais acheté ce disque quand il était sorti parce que j'avais vu quand j'avais, je pense, 14 ballets, un truc comme ça, j'avais vu un concert de Zachary Richard qui m'avait vraiment ouvert sur ce monde, ouvert la porte sur la musique cajun et sur toute cette planète qui est la Nouvelle-Orléans. Ça m'avait complètement fasciné et je m'y suis vraiment beaucoup intéressé à partir de là. J'avais acheté cet album quand il était sorti et c'est une chanson qui m'avait beaucoup ému. Je l'avais trouvée très belle parce qu'elle parle des inondations du Mississippi,
ouais,
en 27 et aussi un peu d'une manière plus large, mais et elle parle du sentiment de l'eau qui monte, de ce qui se passe quand tu dois sentir que t'as l'eau aux chevilles, aux genoux, enfin qu'elle monte et que c'est inéluctable. Et cette chanson m'avait ému au point qu'elle avait d'ailleurs généré une chanson du premier album qui s'appelait River of Tears, qui est finalement un dérivé de celle-là, mais je me suis jamais permis de la... C'est une chanson que je jouais comme ça un peu pour moi au piano parce que je la trouvais belle,
ouais.
Mais je m'étais jamais permis de le faire. Et tout à coup, il y a eu un moment, ça a été son tour. J'essaie toujours de mettre... je pense qu'on doit, vis-à-vis des gens qui vont dépenser quelques sous et passer un moment de leur vie à écouter la musique qu'on leur propose, on leur doit de faire quelque chose de personnel, mais... moi, j'ai toujours, par déférence peut-être, ou par respect, mis un titre dans les trois albums de Washington. Il y a un titre qui n'est pas à moi,
mm-hmm,
et qui, à mon avis, dit quelque chose. Le choix de ce titre-là dit quelque chose sur la démarche, et j'essaie de les faire avec humilité et avec respect, mais en y mettant ce que je peux de moi-même. Alors, sur ce disque-là, ben, c'est celle-là qui est sortie, c'est celle-là qui s'est imposée, et je crois qu'il faut laisser les choses se faire quand leur moment vient, et là-bas, c'était le cas.
Ça veut dire qu'il y avait d'autres titres, éventuellement, qui auraient pu remplacer celui-ci, d'autres inspirations à ce moment-là?
Oui, il y en avait quelques-uns.
Mmh. Ouais.
Qu'on va peut-être dans des albums suivants.
C'est ce que j'allais dire, qu'on va garder.
On les laissera faire.
Ouais, qu'on va garder secret. Alors.
Oui.
Par contre, tu offres un titre supplémentaire aux acheteurs de ton album sur le net, c'est bien ça? Si j'ai bien compris,
il y a une
13e page qui arrive sur l'album virtuel. Est-ce que tu penses que c'est un argument suffisamment propre à faire délier les cordons de la bourse à l'internaute de base qui est plutôt habitué à pirater tout ce qui passe sous la souris?
Non, je pense pas que c'est un. Je pense pas que c'est un argument qui va.
C'est pas le seul, en tout cas.
Les gens à décider qui vont se dire, parce qu'effectivement le système est, si les gens payent quelque chose, si les gens font une donation, ce qui est la moindre des choses, à ce moment-là, effectivement, il y a un système qui leur donne une page supplémentaire dans,
voilà,
leur bouclette que tous les autres n'ont pas. Et à mon avis, c'est pas une forme d'incitation à faire un don. C'est au contraire une forme de remerciement,
voilà, d'accord,
pour le don en question.
Mmh, pris comme ça, oui, effectivement. On évoquait tout à l'heure tes autres dons. Tu n'es pas que musicien, tu as une formation de graphiste. Tu parles dans la présentation de l'album, d'ailleurs, de cette formation-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis surtout, dans quel domaine précis tu as employé ton art du graphisme? Est-ce que c'était pour de la publicité, pour de l'art pictural, pour... je sais pas, dans quel domaine est-ce que tu exerces?
J'ai le sentiment... toujours vu d'où je me trouve, j'ai jamais le sentiment d'avoir fait le moindre truc artistique. L'art, ça me concerne pas. Moi, je suis plutôt un artiste. disant je fabrique des petites choses. Et puis j'ai effectivement, on en parlait avant, j'ai toujours eu, depuis que j'étais tout minot, j'ai toujours eu le fantasme d'être musicien. Mais on m'a quand même expliqué que j'allais être musicien si ça m'amusait, mais que ce serait pas une mauvaise chose d'apprendre un métier quand même.
Vous êtes musicien, mais sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie,
c'est ça? Voilà, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis musicien, oui, non, mais comme travail.
Comme travail.
On le fait tout le temps. Et effectivement, j'ai eu une formation, j'ai fait des études de graphiste. Mais en toute bonne foi, c'était pas parce qu'on m'y obligeait, c'était parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai jamais pensé que je... Même si j'en nourrissais le fantasme, j'ai jamais pensé que je serais musicien. Je me suis jamais permis de me projeter en imaginant que ça allait marcher. Je me suis dit, bon ben voilà, un truc qui m'intéresse, et j'ai appris ça. Et puis je l'ai pas vraiment exercé ce job, parce que j'ai assez vite fait de la musique, mais à la pige, comme ça, régulièrement, je fais des jobs plutôt pour nouer les deux bouts, parce que j'ai pas non plus envie d'être coincé dans la musique par un problème de revenus, et puis on n'a pas d'assédique là où je me trouve, donc moi ça m'intéresse pas d'être obligé d'aller faire des concerts qui m'emmerdent, juste parce que j'ai mon loyer à payer. Donc je fais des jobs justement dans le graphisme, et là c'est dans la publicité, c'est je bosse beaucoup pour la télévision, pour la publicité à la télévision. Je fais beaucoup d'effets spéciaux, de trucs comme ça, quand il y a besoin de rentrer un peu d'argent.
Ça, c'est quelque chose qu'on sait moins, hein, finalement. C'est vrai que c'est un autre compartiment de ton existence.
Hein. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout un compartiment que j'ai gardé extrêmement étanche. J'ai toujours compartimentalisé mes activités avec une immense priorité. Je passe 8 heures par jour à fabriquer de la musique. Mmh. Donc, de toute façon, c'est ça mon job. Mais après, j'ai, Dieu merci, une vie qui est suffisamment remplie et suffisamment riche pour toucher à d'autres choses, ce qui me nourrit, ce qui me fait vraiment plaisir. Je suis heureux que ça soit comme ça. Et puis, j'ai toujours gardé des cloisons très étanches entre tout ça. Et tout à coup, là, pour une fois, je ne sais pas si c'est une forme d'avancer dans la vie, une maturité ou quelque chose, mais je me suis dit, tiens, et si on abattait une fois les barrières pour voir qu'est-ce qu'on arrive à faire quand on se sert des deux au service d'un même but?
Et justement, alors, par rapport au visuel qui enveloppe tes disques, est-ce que tu imagines un jour de confier ce travail à un tiers, ou est-ce que c'est vraiment une partie si importante et si personnelle de ton travail que tu ne la confierais à personne d'autre?
Moi, je crois que c'est une occasion dont il faut se servir, si on peut le faire, pour communiquer plus précisément cette notion d'univers, d'un truc personnel. Moi, je suis très content de le faire. Ça me semble pas impossible de la confier à quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire, que je suis très content de faire, et qui, à mon avis, va dans le sens de définir quelque chose qui est une certaine personnalité, sans employer de formule, de gimmick, mais simplement en laissant parler les mains un peu.
Ce sont les mêmes sentiments que tu véhicules par ta musique et par l'art graphique?
J'espère, oui. Ouais. J'espère que c'est bien la même chose.
Ça fait partie de la même personne, en tout cas. Ça émane de toi, mais tu vois, enfin, je veux dire, tu vois ça dans la même optique, finalement.
Ben, c'est-à-dire que c'est le même travail, c'est exactement le même travail. Je crois que quand on parle, par exemple, prenons le blues en tant que phénomène culturel, il s'exprime effectivement dans la musique, mais il s'exprime aussi à travers plein d'autres vecteurs. Mmh. Et la manière dont les maisons sont construites, il y a aussi toute une peinture qui est cohérente avec ce monde-là. Je crois que la forme par laquelle une culture s'exprime, elle est jamais unique, et puis elle n'a pas de raison d'avoir un monopole. Je crois que si on peut utiliser différents outils pour communiquer une même chose, on fait autant d'avance.
Tout le monde n'y est pas amené, tout le monde n'est pas apte à le faire non plus, hein, effectivement, mais quand on peut, allons-y, effectivement.
Oui, ça s'apprend, hein, je veux dire, il n'y a rien qui tombe du ciel, quoi, c'est des moyens qu'il faut se donner.
Il y a une part de don quand même au départ, il ne faut pas le négliger.
Je ne crois pas, moi. Non, moi je crois que c'est du travail, vraiment, c'est du travail, c'est de la sueur, mais je ne crois pas du tout au don.
Ouais. Alors, à propos des étiquettes, parce que c'est vrai que il y a une citation de toi là que j'ai retrouvée dans ta com que j'aime bien. Tu écris les étiquettes, c'est un poison pour la curiosité, et tu ajoutes. Alors là, c'est un petit peu outrancier, j'allais dire presque. Si je tombais sur un type qui est à mon parcours, qui se bombarde bluesman, j'aurais même pas envie de l'écouter. En fait, tu ne te qualifies pas bluesman, c'est entendu, mais les gens aiment appeler un chat un chat. Alors, quelle description finalement colle le mieux à ta personnalité musicale? On en a déjà beaucoup appris avec cette interview, mais en deux mots, c'est pas possible, quoi, en fait, si j'ai bien suivi.
J'espère que c'est pas possible de le résumer, ou en tout cas, voilà, ça me paraît très dangereux de le résumer à peu de choses, mais s'il faut ne pas éviter la question, ne pas noyer le poisson, moi, je suis un fabricant, c'est ça que je suis.
Un artisan.
Je suis un type, un artisan, un type à l'établi qui fabrique des trucs puis qui les propose.
Alors tu te dis plus fortement influencé par des écrivains aussi que par des musiciens, tu te dis plus intéressé par l'évolution, le passage, ou plutôt la métamorphose des cultures, qu'elles soient musicales, pourquoi pas religieuses aussi, ou culturelles, que par la technique, hein. On met ça en balance avec la technique de l'autre côté. Pourtant ta musique s'appuie entre autres sur une technique guitaristique que moi je qualifierais d'irréprochable. Je vais prendre un raccourci sans doute osé. Est-ce à dire que la connaissance peut transcender le mouvement des doigts sur un manche de guitare?
Ah oui, je crois que ça doit venir d'ailleurs. La technique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut passer beaucoup, beaucoup d'heures à l'assimiler. Mais c'est jamais qu'un outil. Et cet outil, s'il est au service de rien, eh ben, ça s'appelle de la gymnastique. Ça s'appelle du sport. Et moi, ça m'intéresse pas d'être un sportif de la phalange. Moi, je veux mettre ça au service de quelque chose. C'est la question du sens.
Un sport,
il peut y avoir 120 notes à la seconde qui sont extrêmement chargées, 120 notes à la seconde qui sont extrêmement vides, et une seule note qui est extrêmement chargée ou qui est extrêmement vide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça va raconter, c'est de quoi on parle et qu'est-ce qu'on transporte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du transport. Le moyen de transport, il est anecdotique, et je pense que les doigts et la technique, c'est quelque chose qui est qu'une forme de prestation de service, si vous voulez.
Ah oui, là tu rejoins tout à fait une anecdote célèbre, enfin une phrase célèbre de B.B. King qui confie toujours à ceux qui leur demandent des conseils, ne jouez aucune note qui ne soit pas indispensable.
C'est tout à fait ça. C'est Marc Ribot aussi qui dit qu'il refuse de donner des leçons de guitare parce que tout ce que les gens veulent savoir, c'est quelle note faut-il jouer. Et la réponse, c'est je sais pas, il y en a 12, jouons une des 12. Ouais. C'est égal.
D'accord.
Et puis effectivement, la question n'est juste simplement pas celle-là. Et puis la technique, c'est pas un truc à mépriser, c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de travail, mais c'est pas la question.
Napoléon Washington, j'ai encore quelques questions à poser sur l'avenir, parce qu'on n'envisage pas l'avenir sans un bon rétroviseur quand même. Alors est-ce que tu as des disques de chevet, et surtout, est-ce qu'ils sont les mêmes qu'il y a 10 ans par exemple?
Ah oui, moi je crois que les trucs fondamentaux qui me touchent, il n'y a pas tellement de raisons que ce qui m'a touché un jour ne me touche plus. Donc la plupart vraiment, si on prend l'idée du disque de chevet pour répondre vraiment à la question, j'ai quelques disques de chevet effectivement, et puis ceux-là ne bougent pas. Je les écoute d'ailleurs pas si souvent que ça. Mais oui, ils bougent pas, ils sont bien là, ils nourrissent encore.
D'accord. Alors quelques autres considérations un peu plus prosaïques. J'ai appris que Mud and Grace, donc cet album que tu sors actuellement, allait connaître en 2010 une distribution chez Dixie Frog via Harmonia Mundi. Alors Philippe Langlois paraît-il complètement craqué pour ton parcours et ton album. J'imagine que ça a dû faire monter en toi un certain nombre de sentiments divers. Lesquels?
C'était avant tout très très intéressant parce que j'ai toujours cru à cette manière-là de faire. Moi, j'ai effectivement Dixie Frog, c'est encore, ça sera pour le courant de l'année, mais va publier le disque physiquement.
Voilà.
Ce qui n'était pas du tout mon intention au départ. Et puis, ce qui est très très beau là-dedans, ce qui moi me touche énormément, c'est que c'est une démarche de leur part. Moi, j'ai rien envoyé ni à Dixie Frog ni à personne. Dans cette intention-là, et c'est eux qui sont tombés sur le truc et qui sont venus à moi pour poser la question de dire, moi j'aimerais bien publier ce truc, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, je pense qu'il y a une justesse à ça qui me touche beaucoup, parce que c'est 20 ans d'efforts pour arriver à de beaux efforts, hein, c'est très agréable à faire, mais c'est quand même des efforts, et c'est 20 ans de travail acharné pour arriver à ce qu'un jour ce ne soit pas toi qui dois aller à la montagne, mais la montagne qui vienne à toi, comme ça devrait se passer, et dans une industrie du disque qui est effectivement en plein remaniement et qui souffre beaucoup, et moi je trouve que c'est très rassurant que des choses comme ça puissent encore se passer et qu'une maison de disque puisse te contacter pour te dire, ça j'ai trouvé que c'était intéressant et j'aimerais en faire quelque chose.
Ouais, je crois que de toute façon Dixie Frog, c'est pas une maison de disque comme les autres. Je crois que la personnalité de Philippe Langlois, la personnalité de passionné non calculateur y est forcément pour plus de 99% en tout cas. Si on devait sélectionner un album de Napoléon Washington, duquel aimerais-tu que les gens se souviennent le plus, on va dire pour la postérité?
Ouf, je sais pas quelle pourrait être ma place dans la postérité, je pense que ça m'appartient pas, et quand on fait des albums, on les fait pour les laisser partir, on les fait pour les laisser s'en aller et aller vivre leur vie, et je pense que le plus important, c'est que si les gens se rappellent d'un album, que ça soit celui qui les a touchés, et c'est à eux que ça appartient. Je crois qu'à moi, c'est pas très important, j'ai jamais réécouté mes albums précédents, une fois qu'ils sont faits, ils s'en vont, ils appartiennent aux gens, et c'est à eux d'en faire ce qu'ils ont envie, donc s'il y en a un dont ils ont envie de se rappeler, je suis très touché, ça me fait très plaisir, et qu'ils choisissent eux-mêmes.
J'ai encore deux questions à te poser qui sont liées à ça. Donc, qu'est-ce que tu souhaites laisser comme empreinte de ton passage sur cette planète, finalement ?
Ah, ça, c'est une large question. Moi, j'ai fabriqué des trucs et j'ai essayé de les donner aux gens. Si ce qui pouvait rester, mais là, on est vraiment on est dans le fantasme. Là, si on pouvait rêver sans limite et sans y mettre de réalisme, ce que j'aimerais... définir ça, ça serait que les gens qui m'ont consacré un peu de leur attention et un peu de leur temps ne se soient pas emmerdés. Voilà. S'ils pouvaient rester parole. Ça serait merveilleux.
Sage parole. Et pour terminer, donc plus prosaïquement, encore une fois, quels sont tes projets immédiats ? La scène, il y a quelques dates, j'imagine, de prévues déjà pour ce début de 2010, le printemps, l'été ?
Même pas vraiment avec Washington, parce qu'encore une fois, je suis de moins en moins acharné à amener ma musique sur scène. Ouais. Il y a un truc assez intéressant, c'est que à mesure que j'avance dans ce travail et que je maîtrise un peu mieux le sujet, je remarque que j'arrive à des choses qui ressemblent de plus en plus à ce que je porte en moi et qui deviennent par conséquent de plus en plus intimes. Et ça me donne quelques difficultés à aller les mettre devant les gens. Je pense que ça devient très très intime et très très impudique. Et je suis beaucoup moins acharné qu'avant à l'idée d'aller passer mes week-ends et ma vie sur l'autoroute. Ça, je pense que je l'ai vraiment beaucoup beaucoup fait. Et ben, ça va, j'en ai pas besoin en termes d'ego. J'en ai pas besoin pour me sentir important ou quoi que ce soit. Je crois que j'ai adopté une position assez réaliste par rapport à ce que je fais. Donc je suis pas très énervé par rapport à la scène vis-à-vis du boulot de Washington. Je suis par contre évidemment toujours aussi enthousiaste à l'idée d'aller faire de la scène avec les Blind Boys, qui est un bon band de scène qui est fait pour ça et qui ne nécessite pas qu'on en fasse une version un peu pasteur, un peu simplifiée, un peu édulcorée. Mon travail de disque, je vois pas très bien comment je pourrais l'amener efficacement sur scène sans que ce soit une histoire de gros moyens.
La scène qui est finalement toujours un endroit privilégié, bien sûr, du partage en direct avec le public et donc avec ton groupe davantage qu'avec la formation solo. On va retenir ça alors.
Oui, c'est ça. Moi, je crois que il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas une énorme demande de la part du public pour des concerts du genre de musique que je fais. Je crois qu'il n'y a pas, s'il y avait une demande importante, j'y répondrais bien sûr. Il n'y a pas non plus une volonté de se distancer du public. Je fais de la musique pour les gens, mais réalistement, moi j'aime pas me mettre dans la position du solliciteur et ça m'intéresse pas de forcer des tournées là où il n'est pas nécessaire d'en faire.
D'accord. Ben Napoléon Washington, grand merci pour cette longue interview où tu as pu, je pense, te livrer, hein, il n'y a pas d'autre mot. Ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur, en tout cas, de pouvoir faire découvrir ça également aux auditeurs. Et puis on va poursuivre avec un troisième extrait de cet album. Moi, je souhaite longue vie à l'album, et puis que ce soit dans sa version web actuelle, et puis plus tard, peut-être au mai, juin, je ne sais pas les dates exactes, en distribution physique.
Merci beaucoup.
Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Voilà, moment magique avec Napoléon Washington. On continue avec Write Yourself a Letter. If you don't keep on trying, you can't have things your way. If you don't keep on trying, you can't have things your way. Make a living is harder every day. Feel like a young buck in the morning. Next thing you know, you're old and gray. Feel like a young buck in the morning. Next thing you know, you're old and gray. I don't know you for your savings. You can't withdraw your younger. Washington, extrait de Mud and Grace, troisième et dernier extrait pour aujourd'hui avec Write Yourself a Letter. Vous avez rendez-vous avec Napoléon Washington sur le net dès maintenant si vous le souhaitez, www.napoleonwashington.com pour aller découvrir l'intégralité de son album et puis verser votre bol bien entendu pour avoir le droit de le télécharger si tel est votre désir. En tout cas, je ne peux que vous le souhaiter. On poursuit avec Bob Brosman qu'on évoquait dans l'interview tout à l'heure. Bob Brosman qui sera en concert jeudi prochain, et oui, là, dans quoi, 5-6 jours, là, jeudi 28 janvier, au Souboc, à Coville. Voici Bob Brosman dans son album de 2007 chez Roof Records qui s'appelle Post-Industrial Blues, et j'ai sélectionné pour vous Crooked Blues, monsieur Bob Brosman.
I've been crooked in my body ever since. I try to walk straight to compensate, but it's too late. Sometimes the pain makes me wince. Got the crooked blues, living in a crooked world. People get so crooked, chasing after bling until have a nice day. Get out of my way, start to meet. After bling. But if you always tell the truth, you never have to remember anything.
Absolument exceptionnel qui vous attend sur la scène du Souboc jeudi et vendredi prochain, jeudi 28 avec Bob Brosman et vendredi 29 avec les Mountain Men, Springtime Coming. Les Mountain Men sont actuellement à Memphis pour défendre leur album parce qu'il est primé parmi les meilleurs albums de blues du monde. Et oui, n'ayons pas peur de le dire puisque c'est l'International Blues Challenge de Memphis organisé par la Blues Foundation. Mountain Men en concert vendredi prochain à partir de 21h30 au Souboc à Coville. C'est juste un extrait de cet album superbe pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça s'appelle Blues Before My Time. Thank you.
desire to get there too soon. But this story must be told. Blues before my time. Tear me down in vain. Feel my heart and make me whole. Blues before my time. It's just a sadness that they don't really know. All the blues is about a mirror. All the way we live and how we love. The blues before my time. They tear me down in vain.
L'album Spring Time Coming, si c'est pas pour vendredi prochain au Sous-Box, ce sera pour une autre fois, mais en tout cas ne manquez surtout pas un de leurs passages sur scène, c'est ce genre de concert qu'on n'oublie pas de sitôt. Voilà, Mountain Man, vendredi prochain au Sous-Box, et puis Bob Roseman la veille. Il y aura aussi d'autres occasions ce soir même, on est samedi 23 janvier, de se faire plaisir. Alors si vous avez réservé pour Shaker Rips au Triton, c'est une très bonne idée parce que c'est complet. Sinon, y a une soirée sympa aussi qui se profile du côté de Massy, donc au sud de Paris, au centre culturel Paul Bayard. Il s'agit du jubilé des Shaggy Dogs, qui fêtent donc leurs 10 ans avec quelques-uns de leurs amis. Et puis en première partie, vous aurez Alex and Moonshiners et Maharaja Pee Wee Jones, et puis quelques surprises sur scène, voilà. Donc c'est ce soir à partir de 21h. Et puis ce soir également au Sous-Bock à partir de 22h, le groupe Exit qui va refaire faire revivre pour vous quelques grandes légendes des années 70, ZZ Top, puis quelques autres comme ça, les Rolling Stones, hein, au hasard, Dire Straits, etc. Enfin, vous, si vous aimez toutes ces musiques-là, précipitez-vous ce soir au Sous-Bock à partir de 22h pour le trio Exit, un trio de la région. On continue avec les deux albums qui sont à gagner en ce moment sur le site internet de l'émission, blues.radio666.com. Je parlais du double album de Shake Your Hips, justement, qui s'appelle Blues Twins, qu'on va écouter dans un instant, mais auparavant également ce CD plus DVD distribution Dixie Frog, donc également sélection du collectif des Radio Blues, d'ABS Blues Magazine, de Soulbag et de Blues Magazine, l'album de Guitare Gabriel qui s'appelle tout simplement The Beginning of the Music Maker Story. Voici Going to New York, Guitare Gabriel.
Been so much, different ways. Gone to New York now. Yeah, I'm gone to New York. Yeah. Say I'm gone to New York. I'm going to buy. Been out east, been out west, south, north, not for the rest. I'm gone to New York now. No, I'm gone to New York. Yeah. Say I'm gone to New York. I'm going to buy. Bow-legged rooster, a knock-kneed hen. They both run the jig, but I'm ready, ain't no kid. I'm gone to New York. Ooh, I'm gone to New York, I'm leaving. Say I'm gone to New York, I'm gone to buy. Play the building. Got a big fat woman, she's big and fat. When she stooped down, I was glad ain't no bigger than that. I'm gone in the yard. I'm gone in the yard. Say I'm gone in New York, I'm gone to buy. Tell me, baby, what you gonna want me to do? If you don't mess around, I'll get you an oyster steel cooler. I'm gone in the yard. Say I'm going to New York, I'm going to buy. I'm going to hear from you, sir. Well, I got a nickel, you got a dime. Full of children, I know it ain't that fine. I'm gone and it's time to leave. Gotta go to New York. Say I'm gone to New York, I'm going to buy. Been out east, been out west, south, north, but I'm not gonna rest till I get to New York. Going in the morning. I'm gone to New York.
Voilà, Going to New York, version Guitare Gabriel dans l'album The Beginning of the Music Maker Story, donc chez Dixie Frog, distribution Harmonia Mundi, et puis Dixie Frog, distribution américaine, Music Maker, bien sûr, avec un DVD, s'il vous plaît. Comment vous n'avez pas encore cet album? Eh bien, écoutez, courez l'acheter, hein, qu'est-ce que je vous dis? Un CD 78 minutes et un DVD 75 minutes, plus un livret 40 pages avec des textes anglais et français, voilà, toutes les belles choses qu'on peut réaliser de nos jours. Un autre double album, cette fois-ci c'est un album live et un album studio. On en a parlé il y a de cela quelques semaines avec Jean-Marc Henault, harmoniciste du groupe les Shaker Hips. Donc ça c'est pour tous les frustrés qui pourront pas aller au Triton ce soir au Lila, hein, c'est dans le 93 à côté de Paris, où il faut un concert important, celui de la sortie de cet album justement, tout précisément. Les Shaker Hips qui nous avaient rendu visite au Sous-Bock début décembre, on s'en souvient. On va les écouter là maintenant tout de suite avec une de leurs compos. Mary Jane, Shake Rips dans Sweet Home Chicago.
There is something in my life, something that I can't explain. There is something lie. Something that I can't explain. My heart is beating all the way. She's holding my hand, Mary Jane. Mary Jane. There is something in my head, something deep in my brain. There is something in my head, something deep in my brain. What a very strange feeling way. She gave me a kiss, Mary Jane.
Chic Rips qui s'appelle Blues Twins. Si vous n'avez jamais vu les Chic Rips, attendez-vous à une boule d'énergie. Voilà, un quintet superbe avec Freddie Miller au chant. Chic Rips, double album, distribution Mosaic Records. Voilà, on en a pratiquement terminé avec cette 789e édition du Sweet Home Chicago. Voici un retour au disque de la semaine, troisième extrait. Un harmoniciste, tiens, R. Jimmy Shaw. L'album, c'est toujours You Can't Get in College. Knowledge, You Can't Get in College, bien sûr. Chez Grizzland, R. Jimmy Shaw, donc, avec ce titre qui s'appelle, justement, Knowledge, You Can't Get in College. Titre album, je vous laisse avec ça et puis je vous donne rendez-vous jeudi soir à partir de 21h pour applaudir Bob Brosman sur la scène du Subok et puis vendredi soir à partir de 21h30 pour applaudir Mountain Man sur la même scène et puis sinon eh bien samedi prochain à partir de 13h sur la même antenne. Voilà, Sweet Home Chicago sur le 666. Salut, bye bye. Just a
baby, and ask. Come on and ask. Let me tell you, I know you've been to some fancy college, but I don't think, baby, you've ever been to school. Let me give you